informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, comme en 2017, le second tour de l'élection présidentielle française 2022 opposera Emmanuel Macron, président sortant et candidat pour la République en marche, à Marine Le Pen, candidate d'extrême droite du Rassemblement national. En Afrique du Sud, à Durban, des centaines de manifestants du mouvement Doudoula sont descendus dans les rues hier pour manifester contre l'immigration illégale à Durban. Le gouvernement burkinabé a mis fin aux réquisitions de retraités dans l'administration publique. Cette mesure vise à promouvoir les jeunes et la méritocratie et de mettre fin à la politisation de l'administration selon le gouvernement. Notre invité du jour est Ablasé Ouédraogo, président du FASO Autrement. Avec lui, il sera question du verdict du procès Thomas Sankara, car pour lui, ce verdict pourrait entraver à la réconciliation nationale. Bonjour et bienvenue. À l'international, pour débuter ce journal, les Français auront droit à un match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen après l'élection présidentielle de 2017. Cette fois-ci, le premier tour de l'élection présidentielle qui a connu son épilogue hier a vu la candidate d'extrême droite Marine Le Pen ainsi que le président sortant Emmanuel Macron qualifiés pour le second tour de cette élection. Les deux candidats s'affronteront le 24 avril prochain pour le compte du second tour. En récapitulatif, Emmanuel Macron vient en tête avec 28,1% des voix, suivi de Marine Le Pen, 23,3%. Jean-Luc Mélenchon est troisième avec 21,2% et enfin Éric Zemmour, quatrième avec 7% des voix. On parle toujours élection présidentielle et cette fois-ci au Mexique. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, restera au pouvoir après le référendum d'hier où les Mexicains ont largement validé la poursuite de son mandat, mais avec une participation très faible. Au total, plus de 90% des électeurs ont souhaité que le président aille jusqu'à la fin de son mandat unique de 6 ans, c'est-à-dire en 2024, d'après les premières estimations de l'Institut national électoral INE. L'INE a annoncé également une participation comprise entre 17 et 18,2% des 93 millions d'électeurs. Toujours hors de nos frontières en Afrique du Sud, à Durban, des centaines de manifestants du mouvement Doudoula sont descendus dans les rues hier pour manifester contre l'immigration illégale à Durban. Tout en chantant et scandant des slogans, ils ont une nouvelle fois demandé au gouvernement de prendre des mesures strictes à l'égard des immigrés sans papier. Ils seraient, selon eux, impliqués dans de nombreuses activités criminelles. Le gouvernement a mis fin aux réquisitions des retraités dans l'administration publique. Le gouvernement burkinabé a annoncé hier la cessation immédiate de services des retraités engagés dans l'administration publique afin, dit-il, de promouvoir les jeunes et la méritocratie et de mettre fin à la politisation de l'administration. Sur instruction du Premier ministre Albert Ouédraogo, le ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazi, a décidé de la rupture immédiate des contrats de travail entre l'administration publique et les personnes retraitées. Selon Bassolma Bazi, le recours aux personnes retraitées dans l'administration publique s'est amplifié ces dernières années avec des conséquences désastreuses telles que la politisation de l'administration et l'absence de promotion des jeunes et de la méritocratie. Insécurité dans ce journal, le régime actuel a su réellement convaincre la communauté internationale, en particulier la CEDEAO. C'est ce qu'a fait comprendre Luc Adolphe Thiaou, ancien premier ministre du Burkina. Ce qui peut être en faveur du régime actuel, c'est sa démarche, a ajouté le président du Rassemblement patriotique pour le développement. Il était l'invité de l'émission Tribune hier. Je vous propose de suivre un extrait.
Ce qui peut être en faveur du régime actuel, je pense que c'est sa démarche. Le régime a su réellement convaincre, je le pense, la communauté internationale et en particulier la CEDEAO, que l'état dans lequel le Burkina Faso se trouve, qui est la question sécuritaire, si un accent particulier n'est pas mis, le Burkina Faso va s'écrouler. Et je pense qu'également aussi, les sanctions qu'on a prises contre le Mali, ça a été tout un problème d'approche. Je n'accuse pas les autorités maliennes qui ont affirmé leur indépendance, mais il a manqué beaucoup de tact de part et d'autre. Et je constate que le régime actuel semble avoir pris la mesure de ce qui s'est passé au Mali et essaye de ne pas aller à l'affrontement.
Toujours sur la question sécuritaire, selon Régis Dimitri Balima, maître de conférence, l'idée d'avoir un militaire au pouvoir pour régler la question sécuritaire est une erreur. Il estime qu'il faut nécessairement se remobiliser de manière collective, aussi bien au niveau militaire qu'au sein de la population pour venir à bout de l'insécurité. Il était également l'invité de votre émission Dimanche politique.
Je suis de ceux qui pensaient dès le départ que la situation, ce n'est pas une affaire d'individus à la tête du pouvoir. Si ce n'était que ça, parce que si vous vous souvenez, je crois que le pouvoir du président Roch Kabore avait quand même fait des efforts en multipliant les ressources justement qu'il fallait allouer à l'armée pour faire face à cette situation. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été satisfaisants. Donc, penser qu'il faut que le pouvoir devienne militaire pour qu'on puisse résoudre le problème, à mon avis, c'est une erreur. Parce que je prends cet exemple, hein, vous savez que le Burkina vit une crise à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Et bon, c'est comme si vous me dites qu'il faut que les médecins fassent un coup d'État pour qu'au Burkina, on n'ait plus de problème de santé, ou bien que les enseignants prennent le pouvoir pour qu'il n'y ait plus de problèmes d'éducation. Je crois que c'est un peu réducteur, et au contraire, il faudrait peut-être que les militaires restent concentrés justement sur le théâtre des opérations, parce que justement, est-ce que le pouvoir en plus n'est pas de trop? Est-ce que les militaires ne sont pas aujourd'hui dispersés? Ce sont des questions que je me pose, et si on se souvient, parce que la déclaration du 24 janvier lue par le capitaine Sid Soré, je crois qu'ils ont clairement justifié leur putsch.
La raison pour laquelle
ils ont... la raison pour laquelle, voilà. Et deux mois après, bon, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé. J'ai entendu dans le dernier discours du chef de l'État qu'on demande encore cinq mois à partir de quand? À partir du 24 janvier ou à partir du discours? Bon, tout ça, on verra. Ce sont des situations quand même qui inquiètent, je crois, toute la population. Et ce problème sécuritaire, de plus en plus, vraiment... devient de plus en plus délicat, et je crois qu'il faudrait peut-être qu'on se remobilise et qu'on change de stratégie de manière collective et au niveau des militaires ou au niveau de la population.
Sur la question de la négociation avec les terroristes, Régis Dimitri Balima pense qu'il n'est pas question de négocier actuellement de peur de perdre la face. La négociation, selon lui, devrait être envisagée depuis le début de la crise.
Bon, négocier dans quelles conditions? Vous voyez, si, parce que je crois qu'au départ, on a refusé de négocier. Alors, si aujourd'hui, nous décidons de négocier, c'est parce que on reconnaît que nous sommes faibles et nous sommes impuissants. Et ce n'est jamais bon d'aller sur la table des négociations quand vous avez perdu la face. Parce que vous risquez
de... Et vous estimez qu'on a perdu la face aujourd'hui?
Le combat continue, mais moi je ne pense pas que nous n'avons pas perdu la face, parce qu'au départ nous n'avons pas prévu négocier, nous avons espéré justement régler le problème assez rapidement. Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que nous soyons en position de force aujourd'hui. Cette négociation aujourd'hui vient-elle au bon moment? Je me pose des questions parce qu'il faut éviter quand même d'aller en négociation pour se compromettre et compromettre aussi l'avenir de la nation. Parce que vous savez que ces personnes-là sont très gourmandes. Ce qu'elles veulent, ce n'est pas des petites choses. Donc il faut vraiment faire attention à ce niveau et savoir sur quelle base nous allons négocier. Et voilà. Donc moi, j'attends de voir. Je ne pense pas qu'il faut tout de suite dire que ce n'est pas bien ou que c'est bien. Il faudrait peut-être qu'on s'entende sur les bases vraiment sur lesquelles nous allons négocier. Et puis voilà, pourquoi pas. Parce que je vois que bon, on demande aussi à ce que les terroristes éventuellement qui ont envie de se repentir, qui reviennent, on va essayer de les aider. Mais bon, tout ça, je crains que ce ne soit théorique parce que c'est pas facile. Parce que c'est pas sûr que ce qu'on leur propose est plus important que ce qu'ils gagnent en faisant ce qu'ils font. Donc c'est là tout le problème. Parce que quand vous êtes habitué à gagner votre vie de cette manière et sans règles ni lois, ce n'est pas évident de pouvoir se réinsérer dans un système plus ou moins normal. Donc c'est ça.
Parlons religion dans ce journal. Les fidèles catholiques célébraient hier le dimanche des rameaux ou dimanche des palmes, aussi appelé dimanche de la passion du Christ. Le dimanche des rameaux est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Il marque l'entrée dans la semaine sainte. Petit cours d'histoire sur les origines, le sens et l'importance de cette fête avec Judith Traoré et Marina Ouedraogo.
La célébration de la fête du dimanche des rameaux remonte au 8e siècle. Il commémore deux événements, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et la passion du Christ, sa mort sur la croix et sa mise au tombeau. L'abbé Dieudonné Parfait Yamego, vicaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Colonnaba.
Cette célébration du dimanche des rameaux remonte en fait au 8e siècle en Europe où l'Église allait commencer à ponctuer pendant le temps des carême. Donc cette célébration-là qui va ouvrir la semaine sainte. Ce dimanche des rameaux là, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem que nous commémorons. Et c'est également le dimanche de la passion, comme on le dit, parce que ce dimanche là, nous méditons sur l'évangile de la passion.
Le dimanche des rameaux a une double importance pour le fidèle catholique.
Son importance spirituelle, moi je partirai en faisant une interprétation des saintes écritures, en regardant un peu cette foule liesse qui accueillait Jésus à son entrée à Jérusalem pour la fête de Pâques. Cette foule là avait quoi, c'était de manifester leur foi, de dire Jésus, nous croyons que c'est toi le Messie, nous croyons que tu es venu nous sauver. L'importance aussi pour le chrétien, c'est déjà aussi manifester vraiment sa foi de façon personnelle, sa foi de façon publique, montrer réellement qu'il croit en Jésus qui vient pour le sauver et qu'il donne tout pour accueillir ce Jésus-là qui vient le sauver.
Le dimanche des rameaux ou dimanche des palmes, aussi appelé dimanche de la passion du Christ, est un jour très fort car il ouvre la semaine sainte, semaine au cours de laquelle le chrétien est appelé à vivre plus intensément l'appel à la conversion.
Le dimanche des rameaux a ouvert donc la semaine sainte qui prépare à la mort et à la résurrection du Christ. L'abbé Dieudonné Parfait Yamego, vicaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Colognaba, nous décrit à présent comment est célébré le dimanche des rameaux. Des propos recueillis par Marina Ouedraogo et Judith Traoré.
La célébration de ce dimanche est particulière parce que le peuple de Dieu se rassemble à une partie de l'église paroissiale. Voilà, on trouve un endroit pour prier, on se rassemble là-bas, on fait un rassemblement et chacun apporte son rameau ou bien son palme et à cet endroit, on lit l'évangile où Jésus envoie ses disciples chercher un anneau et après, le prêtre bénit les rameaux des fidèles et après la bénédiction des rameaux, on part en procession vers l'église paroissiale où va se tenir la célébration eucharistique. Et la procession va chanter essentiellement des chants de Hosanna, Hosanna au fils de David. Le Hosanna en fait qui signifie sauve-nous, sauve-nous. C'est le cri de cette foule-là qui était au port de Jérusalem quand il disait Hosanna au fils de David. Il croyait à ce Jésus-là qui était le Messie en envoyé, qui devait les sauver, qui devait les délivrer, qui devait enfin accomplir les annonces prophétiques. Et donc, c'est ce chant-là que les fidèles reprennent dimanche des rameaux pour manifester encore leur attente de salut devant le Fils de Dieu.
Omega Sport.
En sport, nous parlons football avec la 24e journée du championnat national de première division qui a pris fin hier. Les Colombes de Ouaga 2000, Salitas et les Tigres de Bobo Dioulasso RCB se sont quittés en bons amis 0-0. Les académiciens de Saponais Majestic ont pris le dessus sur les militaires de l'histoire 2-0. Score nul et vierge entre Royal FC et le Rail Club du Kadiogo. Dos à dos également entre l'Asfa Yenenga et l'Asec de Kudugu. L'étoile filante de Ouagadougou, 0. AS Douane, 0. AS Koupela, 1. AS Police, 0. L'ASFB électrocute les électriciens de l'AS Sonabel, 3-0. Enfin, Kiko FC, 0. Vitesse FC, 2. Au classement, l'Asfa Yenenga vient en première position avec 41 points, suivi de l'étoile filante de Ouagadougou, deuxième, 39 points. Troisième, l'ASEC de Kudugu avec 38 points. Et quatrième, le Rail Club du Kadiogo avec 37 points. Au bas du tableau, nous avons RCB, 15e avec 26 points. Et enfin, 16e, bon dernier, Salitas FC avec 25 points.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Le verdict du procès Thomas Sankara est à présent connu de tous. La prison à vie pour Gilbert Diendéré, Blaise Compaoré et Yassine Kafando et ce verdict ne sont pas conformes à la configuration politique que vit le Burkina a fait savoir à Blaise Ouédraogo, le président du FASO autrement. Pour lui, ce verdict pourrait entraver à la réconciliation nationale. Il est l'invité de la rédaction et répond aux questions de Charles Da.
Bonjour à Blaise Ouédraogo.
Et bonjour.
Alors, on a tous suivi, le verdict du procès Sankara est tombé. Dans une déclaration, vous estimez que cette sentence pose le problème de la réconciliation nationale prônée par les Burkinabés. Pourquoi c'est un problème réel?
Pour nous, Burkinabés, il y a lieu de se féliciter que ce procès ait eu lieu. Il a duré pendant 6 mois, tout simplement parce que c'est une délivrance pour le peuple burkinabé et puis pour tous les autres défenseurs de la justice à travers le monde. Le constat que je fais est que le tribunal militaire a donné une sanction plus sévère par rapport à la réquisition donc qui avait été présentée par le parquet. Les sanctions là-même sont à la limite humiliantes, mais ça c'est mon avis personnel et j'ai le droit de m'exprimer. Est-ce que le verdict qui est la perpète pour les principaux concernés, à savoir le président Compaoré, Gilbert Diendéré et Yassine Kafando, est-ce que cette sentence-là peut aider les Burkinabés à se réconcilier entre eux? Ce verdict a plus de chances d'augmenter les frustrations, les déceptions et d'approfondir la haine et les divisions.
Dans votre communiqué, vous parlez des avantages de la justice transitionnelle qui n'a pas été prise en compte dans ce procès. Quels pourraient être les avantages ou les vertus d'une telle justice?
Reconnaissons rapidement que la justice transitionnelle, et c'est ça l'avantage, c'est affronter le passé et construire l'avenir. Et la réconciliation par la justice transitionnelle est beaucoup plus simple à faire, garantie de non-répétition. Donc, tout est bénéfice si on utilisait la justice transitionnelle. Ce que la justice classique ne permet pas d'avoir, c'est l'apaisement des cœurs de tous les protagonistes. Justice classique alimente le conflit parce qu'au bout du procès, il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a un malheureux, un frustré et ceux qui sont perdants dans le procès ne peuvent pas repartir avec le cœur dans la paix. Ils auront toujours en tête envie de prendre leur revanche. À l'évidence, cette justice à l'occidentale, la justice moderne, telle que nous l'avons appliquée dans le procès Sankara, d'abord elle est coûteuse, ça a duré 6 mois. Et puis, je ne suis pas convaincu que toute la vérité ait été faite. Et je ne suis pas convaincu que toute la justice ait été faite.
À quoi faites-vous allusion exactement? Aviez-vous des déclarations à faire?
Non, je me dis que ce procès a pris 35 ans avant d'avoir lieu. Quelle que soit la qualité de votre mémoire, je me dis que Nous ne sommes que des êtres humains. Nous avons nos faiblesses. Et je pense qu'on ne peut pas tout retenir après des événements qui se sont déroulés, sur des événements qui se sont déroulés 35 ans après. C'est pour cela que j'ai dit, toute la vérité n'a peut-être pas été dite, toute la justice n'a peut-être pas été faite. Donc, nous restons dans une situation où il faut impérativement travailler à rassembler les Burkinabés pour éviter de continuer à garder notre pays en situation d'otage.
À lire votre communiqué, la réconciliation nationale, ce n'est pas pour aujourd'hui. On dirait même que c'est un luxe pour les Burkinabés.
Il n'y a pas de luxe. Au contraire, sans réconciliation, nous ne pouvons pas construire l'unité nationale. Sans réconciliation nationale, nous ne pouvons pas relever tous les défis auxquels notre pays est confronté. La réconciliation nationale est un impératif.
Vous souhaitez que les protagonistes tournent la page. Vous faites référence à une grâce présidentielle?
Tout ce qui peut amener à l'apaisement des cœurs, tout ce qui peut être mené comme action, tout ce qui peut être pris comme décision pour que les Burkinabés se retrouvent, allons de l'avant.
Monsieur Ablassé Ouédraogo, beaucoup d'observateurs pensent que cette peine enterre définitivement les chances de voir Blaise Compaoré rentrer de son exil ivoirien. Vous, vous êtes de cet avis?
Vous savez, dans cette vie, tant que vous n'êtes pas mort, tout est possible. Moi, je suis un croyant, j'ai foi en Dieu. Que Dieu protège le Burkina Faso, que Dieu fasse en sorte que ceux qui ont la possibilité de sauver notre pays là, le fasse le plus rapidement. Et sauver le Burkina Faso, c'est ce que j'ai dit, c'est rassembler les filles et les fils de notre pays pour construire un avenir commun.
Ablassé Ouédraogo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal mis en onde par Fidèle Compaoré à la présentation. Je suis Abdoul Kader Kounaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à toutes et à tous. Thank you.